Bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir à l'occasion de la sortie du 600e volume de Sources chrétiennes que vous pouvez apercevoir ici, qui a une très belle jaquette. Donc, il s'agit du commentaire sur Jean de Cyril d'Alexandrie. Et je suis heureuse aussi de remercier leur présence, le frère Bruno Escande et Alexandra Berthet des éditions du Cerf qui nous font l'honneur d'être ici pour le lancement de ce volume. 600e volume, eh bien vous savez que ça veut dire qu'il y en a eu 599 avant, et que chaque début de centaine marque un livre particulièrement important. Donc, avec l'aide de Michel, nous voudrions évoquer chaque début de centaine. Donc d'abord le tout premier volume, La vie de Moïse, de Grégoire de Nice, donc avec l'introduction et la traduction de Jean Danielou, paru en 1942. Le volume 100, c'était l'un des volumes du Contre les hérésies d'Irénée de Lyon. Le volume 200, l'un des volumes des sermons de Léon le Grand. Volume 300, les panégyriques de Saint Paul, de Jean Chrysostome. Le numéro 400, la vie d'Antoine d'Athanase. La couleur arrive. Le volume 500, l'unité de l'Église de Cyprien. Et donc le volume 600, que je viens de vous montrer, le premier livre du commentaire sur Jean de Cyril d'Alexandrie. Je voudrais exprimer au nom de tous notre gratitude pour ce beau travail, pour ces 600 volumes, donc ce beau travail de Sources chrétiennes, qui met à la disposition d'un public large ces textes fondamentaux des Pères de l'Église, si difficiles d'accès sans cette collection pour la majorité des textes. Un mot du déroulement de notre soirée. La première partie et la plus longue partie de notre soirée sera consacrée à la présentation donc du volume 600. Et dans la dernière demi-heure, nous aurons la présentation rapide des livres de Sources chrétiennes parus cette année. Paul Mattei, qui devait être là, ne peut être des nôtres ce soir, et Guillaume Badi, qui est l'actuel directeur de Sources chrétiennes, nous fait l'amitié de présenter donc lui-même ses volumes et de dire, il dira, je pense, quelques mots aussi pour conclure notre soirée. Mais commençons donc par la présentation du commentaire de l'Évangile de Jean par Cyril d'Alexandrie. Un commentaire qui, peut-être vous l'avez vu dans les présentations, est tout entier consacré au prologue de Jean, mais je ne vais pas entrer dans le détail, je vais laisser mes voisins présenter le volume, et je vais donner en premier lieu la parole à Bernard Meunier, que je présente en quelques mots. Donc chargé de recherche au CNRS, il a été longtemps directeur de l'Institut et de la collection Sources chrétiennes. Il reste bien sûr aujourd'hui membre du comité scientifique de Sources chrétiennes, tout en enseignant à la faculté de théologie de l'Université catholique de Lyon. Et bon, il s'intéresse tout particulièrement à l'histoire des dogmes, l'histoire de la théologie des premiers siècles, et en particulier à la théologie trinitaire et à la christologie, et vous verrez que c'est bien utile pour ce volume, tout particulièrement. Vous connaissez sans doute l'une ou l'autre de ses publications. Je mentionne Le Christ de Cyril d'Alexandrie, L'humanité, le salut et la question monophysite, sorti en 1997, La naissance des dogmes chrétiens, publié aux éditions de l'Atelier en 2000, Les premiers conciles de l'Église, un ministère d'unité, donc publié en 2003. Sans compter les nombreux volumes publiés en collaboration, et là, je ne vais pas les mentionner tous, je pense que Bernard ne m'en voudra pas, mais je voudrais mentionner au moins le volume de Cyril d'Alexandrie, Les lettres festales, donc qui a été rédigé, enfin présenté en collaboration notamment avec Marie-Odile Boulnois qui est ici dans la salle. Les projets sont multiples, mais donc outre ce volume auquel tu as travaillé, il y a aussi donc beaucoup de travaux en cours, mais bon, ce n'est pas le lieu. Donc tout de suite, je te donne la parole pour nous présenter ce beau volume. D'avance, merci.
Merci beaucoup. Merci Isabelle, et merci aussi à Michel pour nous inviter et donner une fois de plus fidèlement la parole à Source Chrétienne pendant un soir. Alors, cette œuvre de Cyril d'Alexandrie est une œuvre de longue haleine. Ce n'est que le livre 1 qui paraît ce soir. Ça va être un peu comme les séries à succès. Il y aura pas mal de saisons et d'épisodes. Il faudra donc patienter pour avoir la suite et la fin. Mais heureusement, nous sommes plusieurs. Nous sommes déjà 2 pour coordonner ce chantier. Marie-Odile Bounois et moi, et puis d'autres collaborateurs qui s'attellent à l'un ou l'autre livre. Est-ce que c'est une œuvre importante ? C'est toujours un peu subjectif, la notion d'important. On trouve toujours que ce sur quoi on travaille est important. Les autres ne sont pas forcément d'accord. Mais je vais commencer par vous raconter une petite histoire pour essayer de vous en convaincre malgré tout. Une histoire qui nous emporte assez loin du temps de Cyril, un millénaire plus tard exactement, mais encore assez loin de notre temps à nous. Nous sommes en 1445 à Constantinople. Pour ceux qui connaissent un peu leur histoire mondiale, ils se disent « Ah, c'est pas loin de la chute », puisqu'en effet, nous sommes à 8 ans de la chute définitive de Constantinople et de l'Empire byzantin. Donc vous devinez que les choses se gâtaient depuis un certain temps. L'Empire byzantin était une peau de chagrin qui ne cessait de se réduire sous les conquêtes ottomanes. Et pratiquement à la fin, c'était Constantinople et sa banlieue, enfin son arrière-pays, un tout petit peu plus, mais pas beaucoup. Et évidemment, l'empereur byzantin réclame sans cesse et de manière de plus en plus urgente l'aide de l'Occident pour essayer de repousser les Turcs ottomans, et notamment l'aide du pape, qui était un des souverains capables de lever une armée à l'époque, et puis d'un certain nombre de rois et de princes d'Occident. Mais ça faisait un moment déjà qu'on essayait de se rapprocher et de se parler entre Orient et Occident, mais il y avait cette fameuse barrière née quelques siècles avant, provoquée par l'addition du filioque au credo, comme vous le savez, l'esprit procède du Père et du Fils, et ça avait provoqué un schisme profond entre les Grecs et les Latins. Le pape, en gros, là je caricature peut-être un petit peu, les historiens pourront protester dans le temps des questions après, le pape dit d'accord, on veut bien aider Byzance à ne pas succomber, mais il faut faire l'union des églises. Et l'union des églises, ça veut donc dire discuter. On l'avait fait quelques années avant au concile de Florence, un grand concile en 1439, qui avait été déjà une occasion de rencontrer Grecs et Latins, de lire des œuvres, etc. Et puis, vous le savez sans doute, on avait signé l'union enfin, il y avait tous les tampons qu'il fallait sur le papier officiel, et puis ça n'a jamais marché à la base. Lorsque les évêques grecs sont rentrés chez eux après ce concile qui s'était étalé sur 2 ans à peu près pour ce qui les concernait eux, eh bien on leur a dit « vous avez vendu la foi pour avoir l'aide militaire » parce que c'était déjà ça qui était en arrière-plan au moment de Florence. Et les orthodoxes n'ont jamais accepté l'union. Enfin, du moins, la plupart. Parce qu'il y avait un camp unioniste à Byzance et un camp anti-unioniste. Et c'était en train, là aussi, de semer la division interne dans l'Empire qui n'avait pas besoin de ça. L'empereur était évidemment favorable à ce qu'il y ait l'union pour bénéficier de l'aide militaire du pape. Il pousse à la roue pour ça et il décide de donner une dernière chance à l'union en organisant une rencontre officielle entre un théologien latin et un théologien grec pour enfin arriver à se mettre d'accord. C'était la rencontre de la dernière chance et ça se passe en juin 1445, c'est du moins ce qu'on pense parce qu'on n'a pas de documents datés, mais on peut reconstituer à peu près, au palais d'Oxylalas, palais appartenant à l'empereur, donc à Constantinople. Le théologien latin n'est pas quelqu'un de très connu, il s'appelle Barthélemy Lapacci. Le théologien grec est plus connu, il s'appelle Georges Scholarios, c'était l'une des personnes les plus cultivées de Byzance à cette époque-là. Et ce sera du reste le premier patriarche de Constantinople nommé sous la domination ottomane dans une dizaine d'années. Mais pour le moment, il ne l'est pas. Cette discussion devait se tenir en présence de l'empereur lui-même, en présence du légat du pape, en présence du patriarche de Constantinople. Donc c'était vraiment quelque chose de très solennel et très important. Il y avait un homme qui poussait beaucoup aussi pour l'union, c'était le cardinal Isidore de Kiev, un grec, enfin il venait d'Ukraine en fait, mais il était de culture grecque, et il avait été convaincu au moment du concile de Florence, auquel il avait participé, il avait été convaincu que la théologie latine du filioque n'était pas hérétique et qu'il fallait faire l'union. Il avait été créé cardinal par Eugène IV en récompense de ses bons et loyaux services pour l'union dès la fin de l'année 1439, et il était depuis l'homme de confiance chaque fois que le pape avait à envoyer quelqu'un in partes grecas pour persuader qu'il fallait faire l'union, eh bien c'est lui qui l'envoyait très souvent. Isidore, qui était un homme cultivé, se dit on ne peut pas affronter Scholarios et, disons, le camp anti-unioniste sans des armes efficaces. Et grâce à des études de codicologie et d'histoire des textes, des savants du XXe siècle ont pu reconstituer au moins une partie de la documentation qu'Isidore de Kiev avait fait rassembler pour la fournir aux théologiens latins, ce d'autant bien qu'il fallait citer des textes grecs aux grecs si on voulait les convaincre. Et il avait fait recopier, en fait, toute la documentation conciliaire des premiers siècles. On a trois gros manuscrits, deux au Vatican et un qui est à Munich actuellement, et qui contiennent, ce sont d'ailleurs les principaux manuscrits des actes et des documents des premiers conciles de l'Église indivise. Pas tout à fait les sept, parce que pour Constantinople I, on n'a rien. Mais il y avait Nicée, ce qu'on avait pu retrouver de Nicée, et puis Éphèse, Chalcédoine, Constantinople II et Constantinople III. Donc une grosse documentation conciliaire, quoi de mieux que d'en appeler au concile ancien pour essayer de surmonter les divisions. Mais on a retrouvé après un autre manuscrit qu'on a pu associer à cette série, là aussi grâce à ses caractéristiques codicologiques. On est sûr que c'est l'un des manuscrits aussi que Isidore a fait recopier en vue de ses entretiens de Xylalas. Et ce manuscrit, eh bien vous devinez ce qu'il contient, une et une seule œuvre patristique, le commentaire sur Jean de Cyrille d'Alexandrie. Donc vous voyez que pour cette rencontre de la dernière chance, pour essayer de raccommoder les deux moitiés du monde, eh bien il y a les conciles anciens comme ciment et il y a le commentaire sur Jean de Cyrille. C'est quand même si c'est un peu une anecdote, je crois qu'elle est symbolique. Donc voilà. Voilà pourquoi on s'est dit que ça valait la peine d'éditer et de traduire ce commentaire, qui n'est pas toujours, il faut bien le dire, d'une lecture très aisée. Entre nous, si Isidore l'avait fait recopier, c'était pas tout à fait par hasard, bien sûr parce que c'était une belle œuvre, mais parce que Cyrille est le plus filioquiste des pères grecs, c'est-à-dire l'un de ceux avec lequel on peut le mieux argumenter pour défendre la procession de l'esprit à partir du Père et du Fils. Et de fait, l'œuvre de Cyrille est une grande œuvre de théologie trinitaire, même si pour le genre littéraire, elle relève du commentaire biblique. C'est une des grandes œuvres de théologie trinitaire, la plus grande, sans doute, qu'il a écrite. Mais c'est aussi une œuvre de christologie. Je pense que Michel aura l'occasion de nous le montrer. Cyrille réfléchit énormément sur la figure du Verbe incarné, et ce faisant également sur le salut, puisque christologie et sotériologie sont toujours indissociables. Donc vous voyez, une œuvre très riche où tous les grands thèmes de la théologie s'entrecroisent. Et en plus, c'est un commentaire de l'évangile de Jean, ce qui en soi n'est pas rien, et est fort intéressant. Un long commentaire, en format source chrétienne, le commentaire de Cyrille fait 2000 pages de grec. Donc vous voyez que vous en avez encore pour quelques épisodes. Et encore, on n'a pas tout gardé. On a perdu 2 livres sur les 12. Au fond, l'Église ancienne ne nous a pas légué tant que cela de commentaires d'Évangile de Jean. Avant Cyril, nous en avons conservé en entier ou presque en entier 4 seulement. Celui d'Origène, donc dans la première moitié du 3e siècle. Celui de Jean Chrysostome, fin 4e. Celui de Théodore de Mopsueste, début 5e. Et celui d'Augustin, début 5e aussi. Alors je dis commentaires, mais en fait seuls les deux premiers sont des commentaires écrits du genre littéraire du commentaire. Les deux derniers, Chrysostome et Augustin, ce sont des homélies reconstituées en série pour couvrir l'ensemble du texte joannique. Donc voilà, voyez finalement, Cyril c'est le 5e dans l'ordre chronologique. Après lui, il y en aura un, mais qu'on a qu'en fragment, encore d'un théologien alexandrin, Ammonius, au 6e siècle. Alors il y a peut-être eu 4 autres commentaires, mais que nous avons perdus, qui ont été censurés pour cause d'hérésie ou de réputation sulfureuse de leurs auteurs. Il y avait d'abord Héracléon, agnostique du 2e siècle, auquel précisément répond Origène dans son propre commentaire. Mais on ne sait pas à vrai dire si Héracléon avait vraiment fait un commentaire de l'évangile de Jean en son entier. Peut-être qu'il avait seulement étudié certains passages. On ne peut pas reconstituer vraiment son œuvre, parce qu'Origène le cite assez peu, en fait. On a aussi Théodore d'Héraclée, un arien, début du 4e siècle, dont on a un certain nombre de fragments, qui avait écrit un commentaire, mais censuré. Apollinaire de Laodicée, peut-être, nous avons des fragments de lui sur Jean, mais ça n'est pas sûr, parce que Jérôme ne mentionne de lui qu'un commentaire sur Matthieu, donc il se peut très bien qu'il ait cité des parallèles là, et qu'en fait ce soit dans une autre œuvre et pas dans un commentaire sur Jean qu'il ait interprété quelques versets joanniques. Et puis Didyme d'Alexandrie, Didyme a peut-être aussi écrit un commentaire, nous en avons trouvé dans les papyrus, les fameux papyrus de Toura, quelques fragments, mais très peu. Donc c'est difficile d'être absolument certain là aussi que Didyme avait rédigé tout un commentaire. Donc voyez, l'évangile joannique finalement, toujours considéré comme le plus profond, le plus riche théologiquement, n'était pas le plus commenté. Matthieu était beaucoup plus commenté dans l'Église ancienne. Luc doit arriver pas très loin derrière, je pense. Après il y a Jean, Marc est plutôt le parent pauvre, il a suscité peu de commentaires. Alors, qu'est-ce que Cyril trouve chez Jean, comment est-ce qu'il le commente? Je dirais que Cyril a le sens de l'interprétation infinie, pour reprendre le titre du livre de Bory. Dès le début, dès la préface de son long commentaire, il explique qu'il va en faire un commentaire surtout doctrinal, et de fait, son commentaire est très très orienté contre les Ariens. On peut considérer que ce commentaire est une œuvre anti-arienne, en fait, une de plus. Mais alors évidemment, on peut se dire, tirer de Jean des arguments anti-ariens ne va pas de soi, et Cyril le justifie dès le début en disant « Mais Jean est un auteur inspiré, il avait prévu d'avance tout ce qui allait arriver, toutes les objections, tous les dangers, etc., toutes les hérésies, et donc il a mis dans son texte de quoi y répondre. » Alors bon, on peut dire que c'est là une conception de l'inspiration un petit peu basique, un petit peu naïve, et que, bon, on peut faire mieux. Mais je crois qu'il faut lire autrement cette remarque de Cyril. Ce qu'il veut dire, c'est que un auteur inspiré déploie dans son texte une infinité de sens et de lecture, et que lorsque un problème surgit, on peut aller interroger le texte, et le texte répondra, moyennant, évidemment, une interprétation, pas de manière directe. Autrement dit, c'est une façon pour Cyril de dire que le texte inspiré est contemporain de toutes les questions et de tous les lecteurs. C'est ainsi qu'il commence. Et puis, on voit très vite en le lisant qu'il cite énormément l'écriture. J'ai repéré pour le livre 1 environ 600 références bibliques, il y en aura sûrement d'autres à débusquer. C'est parfois des allusions discrètes, parfois des citations explicites, quelquefois longues. Et sur 600, eh bien, il y en a quand même plus de la moitié qui sont d'ailleurs que l'évangile de Jean, donc du Premier Testament et du Nouveau Testament. Il cite énormément, il fait se répondre des versets. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres pères, l'écriture s'interprète elle-même. Un tout petit exemple, par exemple, il se demande pourquoi, au fond, le prologue de Jean introduit la figure de Jean-Baptiste. Eh bien, parce que l'Écriture dit dans le Deutéronome, au chapitre 19, que pour attester quelque chose, il faut deux ou trois témoins. Donc l'évangéliste convoque Jean-Baptiste pour accréditer ce qu'il dit. Voilà. Alors, le livre 1 est consacré essentiellement au prologue. En fait, il va jusqu'au verset 28 du chapitre 1 de Jean. Mais donc, la suite, il la commente, enfin les versets de 19 à 28, il les commente assez vite par grappe. En revanche, sur chaque verset du prologue, il passe au moins une bonne quinzaine de pages, parfois 20, hein, verset par verset. Vous voyez donc que c'est quelque chose de très minutieux. Et de fait, Cyril prête une attention très précise à chaque détail du texte. C'est assez fascinant de voir comment il s'y prend. Un petit exemple pour le verset 6, par exemple, Jean 1, 6, qui dit, là, pour le début, en tout cas, il dit, « Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. » Eh bien, Cyril commande chaque mot pour montrer que chaque mot a son importance. D'abord, « il y eut ». Alors, « il y eut », dit Cyril, eh bien, c'est un passé simple. C'est l'aoriste en grec, « geneto, anthropos », bon, « il y eut ». Le prologue commence par l'imparfait. Cyril est très attentif aux alternances de temps des verbes dans le prologue. Tout exégète aujourd'hui, commentant le prologue de Jean, va également souligner le jeu des temps dans le prologue. Eh bien, Cyril le fait à plusieurs reprises. Avec l'imparfait du début, au commencement était le verbe, et le verbe était auprès de Dieu, etc. C'est un imparfait duratif, nous sommes dans l'éternité du verbe. Avec ce « il y eut », c'est le temps de l'événement, le passé simple. Nous sommes dans l'histoire humaine, c'est le premier contrat, c'est la première fois où on passe justement au temps de l'histoire des hommes, dans le prologue. Donc voilà, le premier mot est commenté avec son temps. Ensuite, un homme. Cyril dit « il y a des gens qui pensaient que le Baptiste était un ange. Pourquoi ? Eh bien parce que Matthieu, au chapitre 11, applique à Jean-Baptiste le verset de Malachie 3.1 qui dit « voici que j'envoie mon ange » en avant de toi, mon angelos, hein, dans la Septante. Voilà. Et donc, des gens s'imaginaient que Jean-Baptiste, en fait, était un ange qui avait pris apparence humaine juste pour annoncer Jésus, mais pas un homme véritable. Donc, dit Cyril, Jean insiste sur le fait que Jean-Baptiste est bien un être humain, un homme, et que ange est en fait un nom de fonction, c'est le messager, et non pas un nom de nature. Parfois, il fera d'autres lectures pour d'autres mots, mais c'est aussi l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il est toujours attentif au contexte, en disant, attention, un mot n'a pas un sens une fois pour toutes, partout. Dans un domaine précis, dans un contexte précis, il peut avoir un sens, et puis un peu plus loin dans l'écriture, un autre sens. On aura peut-être, si on a le temps, un autre exemple tout à l'heure. Ensuite, envoyé par Dieu. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Alors, envoyé par Dieu, dit Cyril, ça veut dire un homme véridique. C'est l'équivalent de véridique. Envoyé par Dieu, ça veut dire qu'il dit le vrai. Et Cyril rapproche ça du début de l'épître aux Galates. Paul, apôtre, c'est-à-dire apostolos, envoyé, non pas par les hommes, mais par Jésus-Christ. Et c'était une façon pour Paul d'accréditer son message. Eh bien, voilà que Jean l'évangéliste fait de même avec Jean-Baptiste. Il est accrédité par Dieu. Et son nom, c'est également ce qu'il accrédite. Comme on voit l'ange Gabriel se nommer lui-même en Luc 1, « Je suis Gabriel », pour qu'on sache à qui on a affaire. Le nom permet d'identifier et d'être sûr du message, là aussi. Et enfin, Jean, on dit que son nom était Jean, et là aussi, Cyril rapprocha d'un autre verset, le verset de Luc 1, 63, où l'on voit que c'est Dieu lui-même qui dit en vision à Zacharie, « Tu lui donneras le nom de Jean ». Et alors, c'est une façon, dit Cyril, c'est une façon pour l'évangéliste de souligner la grandeur du Baptiste, car il est un des seuls dans le Nouveau Testament, en dehors de Jésus lui-même, dont le nom ait été choisi directement par Dieu. C'est dire la qualité du témoin et de la figure qui est introduite dès le prologue. Voilà, alors c'est un exemple, on pourrait bien sûr continuer longtemps. Chaque détail vraiment est interprété, et toujours en rapprochant d'autres versets, soit de Jean lui-même, soit d'autres évangiles, soit de l'ensemble de la Bible. Un autre exemple de l'attention et de la minutie de Cyril, c'est lorsqu'il commente le verset 9. Le verset 9 de Jean, « Il était la lumière véritable qui éclaire tout homme venant dans le monde. » Cyril sait qu'il y a des divergences d'interprétation pour ce verset 9 parce que grammaticalement, la fin du verset 9, « venant dans le monde », peut se rapporter soit à lumière véritable, soit à tout homme. Et de fait, ça a été un débat dès l'Église ancienne jusqu'à nos jours. Les exégètes, encore, aujourd'hui, ne sont pas tous d'accord sur la façon d'interpréter ce verset, puisque les deux choses sont possibles. Et donc, Cyril dit, oui, il y a débat là-dessus, et il va donner des arguments pour dire quelle est sa solution à lui, qu'est-ce une solution fréquente dans l'Église ancienne, et qui est plutôt rejetée maintenant, enfin majoritairement rejetée par les exégètes actuels, c'est de dire que c'est tout homme qui vient dans le monde. Et de fait, Cyril dit, si on va voir le verset juste après, le verset 10, on nous dit « il était dans le monde ». Alors pourquoi, si c'était le verbe « lumière véritable » qui vient dans le monde, pourquoi est-ce que Jean dirait « le verbe en venant dans le monde » éclaire tout homme, et puis juste après, il était déjà dans le monde. Pour Cyril, tous ces versets-là, qui sont avant Jean 1,14, la mention de l'incarnation, parlent de la présence du Verbe, de la présence cosmique du Verbe au monde, et pas de sa venue dans la chair. Là aussi, contextualisation, il dit à ce stade du prologue, il n'est pas logique d'y voir déjà une allusion à l'incarnation, qui ne va être introduite que plusieurs versets après. Donc, le verbe était dans le monde et ce n'est pas lui qui vient dans le monde. C'est donc tout homme. Alors, il leur répond même à une objection, parce qu'il sait qu'il y en a, en disant, on peut citer un autre verset de Jean, où le verbe dit, moi la lumière, je suis venu dans le monde. Et même, on peut citer aussi le psaume 42, envoie ta lumière et ta vérité, qu'elle guide mes pas. Donc, en effet, on aurait pu dire que c'est le Verbe, là, qui vient dans le monde. Mais, réponse de Cyril, c'est une question de contexte. Là encore, plus loin dans l'évangile de Jean, Jésus fait allusion à sa venue dans le monde, sur terre. Dans le psaume, on invoque Dieu pour qu'il envoie son Messie, qu'il envoie son Sauveur. C'est donc un appel à l'incarnation, mais pas dans cette partie du prologue. Vous voyez, voilà, toujours, on fait un dossier, on regarde, on répond à des objections, on cite d'autres versets, on s'interroge sur le sens des mots, sur la grammaire, etc. Et peu à peu, on avance. C'est assez impressionnant de voir à quel point, finalement, Cyril a une lecture cohérente. C'est-à-dire qu'il a vraiment une image globale du message joannique, et au fond, aucun verset ne vient faire fausse note, ne vient contredire. Je vais peut-être un dernier exemple, une discussion sur Jean 1,18. C'est le Fils qui est dans le sein du Père, hein, l'unique engendré qui est dans le sein du Père. Et alors Cyril répond à des hérétiques, qui doivent être des Ariens, qui disent « mais dans le sein, ça veut dire, c'est une manière symbolique de parler de l'amour, de la relation d'amour qu'il y a entre le Père et le Fils. Et vous voyez que ça veut dire que le Père aime le Fils. Il ne faut pas en faire une lecture métaphysique, disant dans le sein du Père, ça veut dire de la substance du Père. Précisément la lecture qu'en fait Cyril. Alors que dans le sein, regardez, dit l'hérétique que Cyril met en scène, regardez l'épisode en Luc 16 du pauvre Lazare. Lazare, une fois qu'il est mort, il arrive dans le sein d'Abraham. C'est une manière de dire qu'il est réuni à Abraham. Eh bien, de même, on peut dire que le Fils unique va être réuni au Père de cette façon, mais non pas qu'il procède de la substance du Père. Et là aussi, Cyril va dire, attention, il est vrai que le mot « saint » dans certains cas peut signifier l'amour dans l'écriture, ça peut être un sens seulement symbolique, mais pas là, parce que là, le mot figure à côté du mot « monogène »,« monogénèse », l'unique engendré, et c'est donc une question de génération, et pas une question de réunion par l'amour, par la volonté, etc. Vous voyez, rapprochement des mots, là encore, recontextualisation, et on donne au mot le sens qu'il peut avoir dans ce passage précis, et non pas dans un autre verset, y compris du même évangile de Jean. Voilà. Alors, la lecture globale du prologue que fait Cyril est unifiée, est orientée par un souci constant. Alors, je l'ai dit, c'est un souci anti-arien. Et plus précisément, eh bien, c'est le souci de toujours appliquer à chaque verset une sorte de structure métaphysique qui est la distinction entre le par nature et le par participation. C'est une notion platonicienne, dans son origine lexicale, mais qui recoupe aussi tout simplement la notion de transcendance séparant Dieu du créé dans la tradition biblique. Et en fait, Cyril, là, nous, les deux, enfin, il n'est pas le seul, tous les pères, évidemment, font ça. Mais on a vraiment un souci constant de Cyril de montrer que le verbe est ce qui est participé par la création. Il est la puissance, la sagesse, etc. Et les créatures humaines ont besoin de puissance, de sagesse. Elles ne l'ont pas par elles-mêmes. Elles ont besoin d'en participer. Elles participent du verbe. Le verbe est du côté de ce qui est participé et non pas, comme disent les Ariens, du côté de ce qui participe. Ce qui le mettrait justement du côté des créatures et non pas de Dieu. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un leitmotiv qu'on retrouve tout au long de la lecture du prologue. Et Cyril aime notamment beaucoup citer un verset qui est 1 Corinthiens 4:7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? On retrouve vraiment toutes les 10 pages sous sa plume. Ça s'adresse à la créature. Pour lui, la créature ne possède rien en propre. Elle ne possède que ce qu'elle reçoit de Dieu par la médiation du Verbe. Et Cyril insiste sur la simplicité divine qui fait qu'il ne peut pas y avoir en quelque sorte des attributs séparables en Dieu. Si Dieu est simplicité, il est lui-même tout ce qu'il est. Dieu n'a pas la sagesse, la bonté, il est la sagesse, il est la bonté. Quelques années avant, Augustin a dit exactement la même chose dans le De Trinitate. Dieu n'est pas sage, il est la sagesse. Dieu n'est pas bon, il est la bonté. Et quelques décennies après, le pseudo-Denis dira également la même chose, hein, de Dieu qui est, avec ses composés en auto, auto-zoé, auto-sophia, hein, il est la vie en soi, il est la sagesse en soi. C'est également ce que dit Cyril ici. À cette petite différence qui est intéressante parce qu'elle nous dit quelque chose aussi de l'orientation de la théologie de Cyril, c'est que chez Augustin et le pseudonyme, il s'agit de Dieu. Dieu comme Dieu. Alors que chez Cyril, il s'agit du Fils, plus précisément. Parce que, encore, c'est son souci constant de bien intégrer le Christ, le Verbe incarné, dans la sphère divine. Bon. Je m'arrête là pour le contenu même du commentaire du prologue de Cyril. Peut-être une dernière remarque, parce que je viens de parler longuement du prologue, mais ma dernière remarque va être pour dire que pour Cyril, il n'y a pas de prologue. Le prologue n'existe pas, c'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'à la fin du verset 18, Cyril nous dise « Bon ben voilà, c'est la fin du prologue, maintenant on va entrer dans quelque chose de plus narratif, c'est le découpage dont nous avons, nous, l'habitude et qui nous paraît une évidence. » Eh bien, aucune remarque là-dessus, rien, chez Cyril. Alors je me dis, tiens, c'est quand même bizarre, pourquoi est-ce qu'il ne dit pas que c'est la fin du prologue ? Alors je suis allé voir d'autres commentaires, et ma surprise est allée grandissante. Aucun auteur ancien ne dit que le verset 18, c'est la fin de ce qu'on pourrait appeler le prologue. Ça n'existe pas, le prologue de Jean, dans l'Église ancienne. Et je pense, là, je ne vous ferai pas croire que j'ai tout lu, mais que c'est la même chose pour le Moyen-Âge. Je suis allé faire quelques sondages, je n'ai rien trouvé non plus. Vous avez par exemple dans la collection Sources chrétiennes, hein, un volume qui s'intitule « Homélie de Scotérigène sur le prologue de Jean ». Eh bien, c'est un faux. Non, je veux dire que le titre est un titre moderne qui a été donné par l'éditeur, mais c'est un titre malheureux. Il n'y a pas de prologue chez Scotérigène. Voilà, non. Il n'y a qu'un début de l'évangile de Jean pour les auteurs anciens et médiévaux. Un début. Simplement, ça commence là. Mais après, non. Et de fait, tous les exégètes modernes qui étudient le prologue sont toujours bien en peine de lui trouver un plan. Autant d'exégètes, autant de plans différents du prologue, hein, avec toutes les structures et les lectures possibles. On est bien d'accord pour dire qu'il commence au verset 1. Mais alors après, pour dire où ça se termine, hein, il y a des éléments narratifs introduits dès le verset 15, etc., plusieurs choses. C'est très très compliqué, voilà. En tout cas, bon, pour les pères, il n'y a pas de prologue de Jean. Voilà. Alors, bon, je ne veux pas énumérer les thématiques que vous pourrez rencontrer. Je vous invite surtout à aller voir vous-même ce volume. Mais vous trouverez de quoi réfléchir, de quoi élaborer une anthropologie pour une anthropologie chrétienne. Parce que c'est l'un des domaines où les théologiens sont particulièrement attendus de nos jours, et on ne dit pas Cyril en vain pour ça. Vous avez notamment tout le chapitre 9, c'est le plus long, il fait, dans le format Source chrétienne, ça doit faire 70 pages, quelque chose comme ça, qui commente justement ce fameux verset 9, hein, « Il illumine tout homme venant dans le monde ». Cyril en disant, attention, quand Jean dit « tout homme qui vient dans le monde », il ne veut pas dire, comme le dit Origène, qu'il y avait des âmes préexistantes et qu'elles sont envoyées à la suite de je ne sais quel châtiment, etc. Alors, Origène ne dit pas que les âmes s'incarnent par suite d'un châtiment, il ne dit pas comme ça, ça vient de Platon. Mais du coup, Cyril se lance dans un grand développement anti-origéniste, et ça nous vaut de très belles pages qui sont une sorte de célébration de la condition corporelle, à grand renfort de citation biblique. Mais alors, par exemple, chaque fois que les prophètes annoncent « ma chair revivra, mes os revivront », chaque fois qu'il y a des annonces de la résurrection corporelle dans l'Écriture, ce serait l'annonce d'un châtiment. Qu'est-ce que ça signifie? Et lorsque Dieu promet à Abraham une descendance nombreuse, alors ça suppose que pour que Dieu tienne sa promesse, il y ait beaucoup d'âmes qui pêchent pour qu'on puisse les envoyer dans des corps et que Abraham et sa descendance, etc., etc. Et voilà. Et donc vraiment, on a des belles pages de réflexion sur le fait que la condition corporelle, non, n'est pas un châtiment. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire seulement une phrase que vous trouverez dans le volume, à la page 485, si vous ne me croyez pas qu'elle y est. « Comment le corps peut-il encore être pris pour un châtiment ?» alors qu'en lui, nous trouvons notre joie et que Dieu s'y complaît. Il y a ça dans Cyril quand même. Vous voyez qu'on est loin de cette espèce de platonisme abattardi dont on taxe tous les pères de l'Église, hein, jusqu'à plus soif. Il y a rien de ça. D'ailleurs, chez Platon aussi, il y a de belles choses sur le corps, hein, enfin sur le monde sensible en tout cas. Mais là, c'est pour dire que voilà, vous trouvez aussi des choses comme ça chez Cyril sur l'adoption filiale. Alors ça, c'est un de ses thèmes favoris, il dit de très belles choses tout au long de son commentaire de Jean sur cette adoption à laquelle l'être humain est promise, mais qui commence déjà, puisque celui qui donne l'adoption filiale, c'est l'Esprit Saint, c'est l'Esprit du Christ, et que donc l'Esprit Saint revient habiter dans la nature humaine au moment du baptême du Christ. Donc déjà dans le Christ, en un seul, dit Cyril, c'est toute la nature qui, etc., qui est réadoptée et qui va aboutir à ce dénouement eschatologique. Alors, je ne veux pas me taire sans souligner qu'il y a aussi des choses plus compliquées ou moins lisibles aujourd'hui. C'est vrai que l'œuvre n'est pas si facile. Parfois, Cyril empile les syllogismes, hein, pour prouver que le Christ est vraiment Dieu. Si les Ariens n'ont pas compris, eh bien, il en remet une couche, et puis encore une couche, et puis encore une couche. Et parfois, on est tenté de tourner quelques pages un peu vite, quand il enchaîne tous ces syllogismes. Si le Fils est vie, s'il fait bénéficier toute la création de la vie, alors il ne peut être que Dieu, puisque Dieu seul est vie et donne la vie, etc. Voilà, on a ce genre de syllogisme qui s'étale sur un certain nombre de pages. Et puis, plus grave peut-être, on trouve chez Cyril, on ne peut pas le cacher, vous le savez sans doute, des remarques pas très 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 sympas sur les Juifs et le judaïsme. Et ça, c'est un motif assez récurrent chez notre théologien. Et il a parfois, il prend son départ, son appui dans certains versets joaniques, par exemple le verset 10, « Et le monde ne l'a pas connu ». Et puis juste après, le verset 11, « Et les siens ne l'ont pas reçu ». Vous savez, il est venu dans le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas accueilli. Et alors, Cyril fait la différence. Il dit « Le monde », bien voilà, c'est la création tout entière. Mais il est venu parce qu'il s'est fait connaître de ceux qui sont à lui, les idioi, hein, les siens propres. Et là, dit Cyril, ce sont les Juifs. Alors on dit « Le monde ne l'a pas connu et les siens ne l'ont pas reçu », c'est-à-dire pas accueilli, n'en ont pas voulu. Donc Cyril a tout un développement pour dire que les Juifs ont une lourde responsabilité parce que eux avaient les moyens de reconnaître le Messie, alors que les païens, qui n'avaient pas été préparés à ça, eh bien, avaient au fond plus d'excuses de ne pas l'avoir accueilli tout de suite. Voilà, alors ça, c'est un thème qu'on trouve très souvent. On voit aussi déjà s'esquisser, mais Cyril n'est pas le premier, ça ne l'excuse pas, mais enfin ça remet aussi en situation une théologie de la substitution, avec le verset « grâce pour grâce », hein, où Cyril lit, comme d'ailleurs beaucoup d'exégètes actuels aussi, « grâce pour grâce hein, »,« charis anti charitos », eh bien c'est la grâce du Nouveau Testament, hein, mise en regard de la grâce de l'Ancien. Simplement, chez Cyril, comme chez d'autres, ça devient une substitution, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de grâce de l'Ancien Testament, il n'y a plus de grâce pour les Juifs, et ça, Cyril le dit aussi à plusieurs reprises. Donc, vous voyez, bon, des ombres, et quand même aussi pas mal de lumière dans cette riche œuvre, mais je crois que Cyril nous parle par cette façon qu'il a de prendre au sérieux, comme faisait Origène. Vous voyez, la moindre miette de l'écriture, il ne faut pas la laisser s'échapper. Eh bien, Cyril fait la même chose, il n'énonce pas le principe de la même manière, mais il le fait. Chaque mot retient son attention, pour lui, chaque mot sorti de la plume de Jean est infiniment précieux. Bien, de cela, déjà, nous avons à apprendre. Et puis, ce sera ma conclusion, ce qui nous plaît, au fond, plus spécialement dans les commentaires de l'Écriture que nous a légué l'époque patristique, c'est souvent moins polémique, même si ça l'est quand même un peu chez Cyril. Si j'ose dire, c'est moins pontifiant. C'est pas des traités, ni contre, ni sur Dieu, sur le Christ, sur la Trinité, sur je ne sais quoi. C'est l'écoute de la parole. Et en faisant cela, eh bien, lorsqu'ils nous commentent l'Écriture, les pères de l'Église sont comme nous, assis devant une Bible, et ils la lisent comme nous, pour devenir des témoins de l'Écriture, comme nous sommes appelés à l'être. Et nous pouvons, à cette écoute-là, pratiquer cette lecture où nous nous retrouvons comme disciples devant la parole, sans aucune considération de personne, de hiérarchie ou de caricature, comme on en parle beaucoup aujourd'hui. Je vous remercie.
Très grand merci Bernard pour ta présentation si claire. Je pense que vous voyez que vous avez un maître pour entrer dans l'œuvre de Cyril. Mais oui, mais tu la présentes avec une grande clarté et l'introduction est une merveille de clarté. Merci. Je vais donner maintenant la parole à Michel Fédou qui, à plus d'un titre, est tout à fait apte et très bien choisi pour répondre à, et pour présenter cette belle œuvre de Cyril d'Alexandrie, ce commentaire sur Jean. Et je voudrais surtout rappeler, bien sûr qu'il est professeur de patristique ici, mais cela tout le monde le sait, je suppose, mais qu'il a publié toute une série de tomes, précisément aux éditions du CERF, intitulée « La voix du Christ ». Et comme, bien évidemment, ce volume est très important aussi pour la christologie, il me semble que c'est un point important à souligner. Je souligne aussi que Michel Fédou est un collaborateur des sources chrétiennes, ne serait-ce que par sa présence au conseil scientifique et bien sûr par son travail sur le commentaire de l'épître aux Romains d'Origène. Michel, je te donne la parole. Merci.
Merci beaucoup et bonsoir à tous, à toutes. Je suis très heureux de prendre la parole moi-même ce soir. Un petit peu impressionné d'ailleurs de le faire en présence de grands connaisseurs de Cyril, non seulement Bernard Meunier, mais aussi Marie-Odile Bounois, qui ici même d'ailleurs avait présenté il y a 2 ans un volume du Contre-Julien de Cyril. Ce sont Isabelle et Bernard qui m'ont incité il y a quelques mois à intervenir, et je n'avais pas de raison valable à opposer, d'abord parce que 2 siècles auparavant, comme Bernard l'a rappelé, un autre alexandrin qui m'est cher, Origène, avait lui-même composé un commentaire de l'évangile de Jean. Ensuite, parce que mes enseignements et recherches dans le champ de la christologie m'ont souvent conduit, c'est vrai, à fréquenter Cyril. Enfin et surtout, parce que j'ai trouvé là une belle occasion de rendre hommage non seulement à la collection Sources chrétiennes qui atteint son 600e volume, à Guillaume Badi, son directeur, à Dominique Gonnet, à toute l'équipe des Sources, mais aussi, plus particulièrement, à Bernard Meunier pour ce magnifique travail qu'il a réalisé en éditant et en traduisant ce premier livre donc du commentaire de Cyril sur l'évangile de Jean. Le premier livre, mais nous espérons bien que les livres suivants paraîtront peu à peu au fil des années. Je voudrais vraiment souligner le courage de cette entreprise. D'abord compte tenu de la longueur du commentaire en son ensemble, mais aussi compte tenu de sa difficulté, qui est particulièrement sensible dans ces pages où Cyrille commente les premiers versets de l'évangile de Jean. Mais Bernard Meunier a su au mieux relever ce dernier défi, d'une part par sa traduction, que je trouve aussi élégante que rigoureuse et précise, d'autre part par sa riche introduction au début du volume. On ne peut que se réjouir vraiment de cette traduction qui, comme celle du Contre-Julien qui est en cours, ouvre la voie à une connaissance plus large et plus profonde de Cyrille d'Alexandrie. Jusqu'ici, malheureusement, le patriarche d'Alexandrie a été souvent victime de la réputation que lui a faite son comportement lors du concile d'Éphèse en 431. Il n'attendit pas l'arrivée des Antiochiens pour ouvrir et conclure l'assemblée qui condamna Nestorius. On a souvent dénoncé par ailleurs l'antijudaïsme qui se manifeste çà et là à travers ses écrits, y compris d'ailleurs dans certains passages du commentaire sur l'évangile de Jean, et Bernard l'a rappelé à l'instant. Tout cela doit être assurément reconnu ou concédé. Mais le risque est du même coup que, pour vouloir à juste titre contester ces faces négatives, ces ombres de l'œuvre de Cyrille, le risque est qu'on ne prête pas assez attention aux véritables lignes de force d'une pensée théologique qui est certainement parmi les plus profondes de la littérature patristique en langue grecque. Je suis sur ce point très redevable au père Bernard Sesboué, que je salue, il est ici dans la salle. C'est lui qui, il y a plusieurs décennies, quand j'étais étudiant, m'a ouvert les yeux sur l'importance et la profondeur de la théologie cyrillienne. Cette profondeur ressort particulièrement du volume qui nous retient ce soir. Car Cyrille, commençant par le commencement, est ici conduit à commenter les tout premiers versets de l'Évangile, très exactement, depuis le premier verset, au commencement était le Verbe, le Logos, jusqu'au témoignage du Baptiste, en Jean 1, 28. Le livre 1 du commentaire porte donc pour l'essentiel sur ce que nous appelons aujourd'hui le prologue joannique, et on comprend bien que ces versets, si importants pour leur portée doctrinale, aient particulièrement retenu l'attention de Cyrille. Origène, déjà, leur avait consacré de longues explications, et surtout, ces versets ont tenu une place centrale dans la controverse arienne. Je voudrais justement me concentrer sur les enjeux doctrinaux du commentaire qui nous est ici proposé. L'ampleur des développements de Cyrille ne me permet évidemment pas de reprendre, dans un temps limité, toutes les questions qui le mériteraient. Et je me concentrerai en fait sur trois points, mais qui sont tout à fait essentiels. D'abord, la relation entre le Logos et Dieu, d'après le tout premier verset. Ensuite, le rapport entre le Logos et les créatures, d'après les trois versets suivants. Enfin, l'interprétation du fameux verset « Le Logos devint chair » en Jean 1, 14. Dans chacun de ces cas, je ne voudrais pas seulement redire la position de Cyrille en la resituant dans son contexte, je voudrais aussi soulever la question de sa pertinence théologique. Et j'énonce d'emblée, au fond, ce qui sera la thèse essentielle de mon propos. S'il est vrai que, d'un côté, la lecture du commentaire peut paraître engagée, sur bien des points, dans une direction assez différente de celle à laquelle convient les orientations dominantes de la théologie trinitaire ou de la christologie depuis quelques décennies, on peut cependant penser que, paradoxalement, les insistances propres de Cyrille attirent justement notre attention sur quelques affirmations majeures qui doivent s'imposer, aujourd'hui comme hier, à toute réflexion sur le Verbe de Dieu et sur son incarnation. Qu'en est-il d'abord du verset 1, dans le principe était le Logos, je reprends la traduction de Bernard, dans le principe était le Logos, dans le principe était le Verbe, et le Verbe était tourné vers Dieu, et le Verbe était Dieu. L'explication de ce verset par Cyrille est dominée par la préoccupation de réfuter la doctrine propagée par Arius et ses continuateurs comme un homme, doctrine selon laquelle le Verbe de Dieu aurait commencé à être, au lieu d'être, dès l'origine, éternellement engendré par le Père. C'est ainsi que Cyrille lui-même résume la doctrine de ses adversaires ariens, je le cite, « Ils soutiennent, avec ignorance et impiété, que le Verbe unique engendré de Dieu, la lumière éternelle en qui nous avons tous le mouvement et l'être, a été appelé à l'existence au moment même où il a été enfanté homme de la Sainte Vierge et où, sous cet aspect commun, il a été vu sur la terre. » À l'encontre de cette doctrine arienne, Cyrille, lui, s'inscrit directement dans la lignée de l'évêque Alexandre, d'Athanase et des Cappadociens, et le premier verset de l'Évangile lui fournit précisément des arguments de poids. Je cite au moins ces quelques lignes. Rien de plus ancien que le principe, l'arché, rien de plus ancien que le principe s'il conserve bien en lui-même la définition du principe, à savoir qu'il n'y a jamais de principe du principe. S'il était dans le principe, dis-moi, quelle intelligence pourra-t-elle surpasser d'un coup d'aile la signification de ce « il était » Principe ne peut nullement être compris dans le temps, quand il s'agit de l'unique engendré, puisqu'il est avant tout temps et possède une existence antérieure au siècle, et aussi parce que la nature divine se refuse à cesser et avoir un terme. Elle sera toujours la même, comme on le chante dans des psaumes, « Tu es le même et tes années ne manqueront pas ». Donc, si le Fils est antérieur au siècle même, il échappera à un devenir temporel. Il était de tout temps dans le Père, comme en sa source, ainsi qu'il l'a dit lui-même, « Moi, je suis sorti du Père et je suis là ». Et Cyrille, d'ailleurs, reprend alors les images traditionnelles depuis les pères apologistes. Le Fils existe dans la substance du Père comme fait à partir du soleil son rayonnement ou à partir du feu la chaleur qui s'y trouve naturellement. Ainsi le Fils a-t-il en lui comme le principe sans principe de sa propre nature. Le Fils est éternellement du Père et à partir du Père. Dans le principe était le Verbe. L'imparfait « était » dit Cyrille a été justement employé, je cite, « pour faire tendre la pensée de celui qui médite vers une forme de génération profonde, incompréhensible, indicible, étant hors du temps. » Je ne veux pas dire qu'il y ait confusion entre le Fils et le Père. De fait, en commentant la suite immédiate du verset, et le Verbe était tourné vers Dieu, Cyrille change en quelque sorte de perspective et s'en prend non plus à l'arianisme, mais à la doctrine dite monarchianiste, qui ne tenait pas de distinction réelle entre le Fils et le Père. Toute une argumentation est alors déployée pour établir que le Père et le Fils ne sont pas un seul et le même en nombre, mais qu'ils sont considérés dans leur subsistance propre. En d'autres termes, pour le dire dans le langage hérité des pères cappadociens, l'affirmation de la génération éternelle ne doit pas empêcher de tenir la distinction des hypostases. Le Verbe était dans le principe, mais il ne se confondait pas avec le Père. Cependant, après cette précision importante, la fin du verset « Et le Verbe était Dieu » permet à Cyrille de revenir à son affirmation initiale, qui est l'affirmation majeure, et il la reprendra avec insistance à propos des versets suivants de l'Évangile. L'argumentation de Cyrille, comme le souligne justement Bernard dans l'introduction du volume, l'argumentation est d'abord et avant tout une argumentation anti-arienne. Même si la distinction du Fils et du Père est rappelée au moment où il le faut, le commentaire développe avant tout l'affirmation de la génération éternelle du Verbe et de son identité avec Dieu. Cette orientation dominante, même si elle s'explique historiquement par le contexte de l'opposition à l'arianisme, pourrait certes paraître, en un sens, moins actuelle de nos jours, dans la mesure où la théologie a été souvent conduite à insister davantage sur la distinction entre le Fils et le Père, par réaction contre une théologie qui, dans l'Occident latin surtout, posait d'abord l'éternelle divinité du Verbe, quitte à préciser aussitôt que cette nature divine était le bien commun de trois personnes distinctes, on a été souvent porté à mettre davantage l'accent sur la distinction de ces personnes, notamment à partir d'une considération de l'histoire du salut, qui est le véritable point de départ de la doctrine trinitaire, et qui précisément donne à voir la révélation du Fils comme distincte de celui qu'il nomme son Père et de l'Esprit dont il annonce la venue. De façon tout à fait typique, révélatrice de cette orientation que je viens de résumer, dans un livre intitulé, c'est un néologisme, dans un livre intitulé « Des coïncidences », un livre qui est paru en 2017, le philosophe et sinologue François Julien consacre plusieurs pages au prologue de l'Évangile de Jean. Il écrit de manière assez radicale, je le cite, « Dieu coïncidant avec soi, adéquat à soi, en cohésion et parfait recoupement de soi-même, est stérile, ou disons qu'il est impuissance de Dieu. Mais c'est dans la mesure où de lui-même il ouvre un écart avec lui-même qu'il s'effective, sic, en Dieu. » Le prologue de Jean l'expose de façon magistrale par la décoïncidence initiale qu'il introduit entre le Logos et Dieu, qui en même temps, cependant, sont le même. Cette phrase que je viens de citer est tout à fait caractéristique. On pourrait dire que l'accent dominant de cette pensée de François Julien, dans le passage que je viens de citer, est inverse de l'accent de Cyrille. Bien sûr, François Julien dit bien que le Logos et Dieu sont le même, mais la pointe de son développement, c'est de souligner la distinction, l'écart, la décoïncidence. Or, me semble-t-il, c'est justement l'intérêt de la théologie de Cyrille de rappeler qu'une saine théologie ne peut pas penser cette distinction du Fils et du Père sans penser aussi du même mouvement leur commune divinité. Ce n'est pas le lieu, évidemment, de dire comment il est possible de le faire, mais nous apprenons en tout cas de Cyrille qu'une telle tâche est requise. Le Verbe de Dieu ne coïncide pas avec le Père, mais il n'en est pas moins dans cette différence même, radicalement uni à Dieu, dont le principe était le Verbe. J'en viens maintenant au verset suivant. Tout advint par lui, et sans lui, rien n'advint. Dans ce qui est advenu, en cela il était vie, et la vie était la lumière des hommes. Le commentaire de Cyrille s'ouvre ici par une argumentation contre les païens, du fait de leur polythéisme. Jean, écrit-il, présente l'unique engendré comme artisan et créateur de toutes choses, et par là même, il confond les cultes adressés à de fausses divinités. Très vite, cependant, Cyrille en revient à l'argumentation anti-arienne, qui tient donc décidément une place centrale dans son propos, et il répète inlassablement sa thèse, je donne un exemple, je cite, à propos de la formule « Il était la lumière véritable », Cyrille commente, « L'évangéliste inspiré par Dieu revient encore utilement sur ce qu'il a dit et distingue clairement ce qui est lumière en vérité, c'est-à-dire l'unique engendré, de ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire les êtres devenus. Il écarte nettement ce qui est par nature de ceux qui sont par grâce, ce qui est participé de ceux qui participent, ce qui se donne soi-même à qui en a besoin, de ceux à qui on donne. » Ce n'est donc pas seulement le polythéisme païen qui est écarté par les versets joaniques que Cyrille est en train de commenter, c'est aussi et surtout, de nouveau, la doctrine de l'arianisme. Non pas d'ailleurs parce que cette doctrine reviendrait à diviniser des créatures, mais parce que, aux yeux de Cyrille, l'arianisme place le Fils lui-même du côté de la création. Or, si rien n'advient sans le Logos, si le Logos était vie, si la vie était la lumière du monde, c'est bien que le Logos, le Verbe, est Dieu par nature, et non pas une créature venue à l'existence et qui serait devenue Dieu par adoption. Ici encore, apparemment, la pensée de Cyrille ne semble pas aller dans le sens de ce que la théologie, peut-être, serait portée à souligner prioritairement de nos jours. Là où Cyrille marquait fortement la différence entre le Verbe et les créatures, la pensée contemporaine a rendu plutôt attentif au lien intime qui unit le Fils à la création et à l'histoire. Et cela, non seulement parce que le Fils est devenu homme un jour du temps, mais parce que la prise au sérieux de son devenir homme doit en quelque sorte refluer sur la compréhension de son identité divine et qu'elle invite à penser le Fils comme étant, dès l'origine, tourné vers le monde et apte à s'immerger lui-même dans le devenir de ce monde. L'insistance privilégiée sur le lien entre le Fils et les créatures entend aussi répondre, de nos jours, à une exigence de crédibilité pour nos contemporains. Plus sensible à l'annonce d'un Fils de Dieu proche de l'humanité qu'à l'affirmation d'un caractère d'exception qui s'attacherait au Christ de manière en quelque sorte exclusive. C'est pourtant dans ce contexte même que la pensée de Cyrille vient apporter, là encore, me semble-t-il, un éclairage essentiel. Cette pensée, en effet, rappelle opportunément qu'aucune christologie ne peut se dérober à l'exigence de penser l'identité du Fils en ce qu'elle a d'unique. Non point certes qu'il faille atténuer en quoi que ce soit l'affirmation du lien intime entre le Fils de Dieu et la création, mais il importe de montrer comment ce lien même contribue précisément à révéler l'identité incomparable du Fils unique. Il ne s'agit pas non plus de considérer cette identité du Fils unique comme ce qui devrait signifier une exclusion vis-à-vis de l'humanité. L'enjeu est plutôt de montrer comment l'unicité du Fils est justement ce qui en réalité rend possible l'accès de l'humanité à la filiation divine, ce qui est très exactement la pensée de Cyrille, comme on le voit d'ailleurs par son explication du verset 12 du chapitre 1 de l'Évangile. Ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Cyrille commente, l'évangéliste montre ainsi la grandeur de la grâce qui leur a été donnée, puisqu'elle réunit pour une familiarité de nature avec Dieu le Père, ce qui lui est étranger, faisant monter l'esclave jusqu'à la noblesse du maître à cause de l'amour fervent que celui-ci lui porte. En d'autres termes, l'insistance de Cyrille sur la différence entre le Verbe de Dieu et les créatures, cette insistance, en dépit de l'apparence première, c'est cela même qui permet, selon Cyrille, la communication de la vie divine à tous ceux qui croient en son nom. J'en arrive enfin au dernier verset dont l'explication est particulièrement importante, le fameux verset 14, et le Verbe, et s'est fait chair, le Verbe devint chair. Cette explication est déjà préparée par un long développement de Cyrille sur la corporéité, Bernard y a fait allusion, un développement qui est manifestement dirigé contre la doctrine dite originiste, qui impliquait une certaine dépréciation du corps. Et de fait, on lit dans ce contexte des formulations qui méritent d'être relevées. Bernard en a cité, en voici une autre. La condition charnelle n'est pas consécutive au péché, elle n'est pas non plus une façon de châtier, comme le veulent certains. Nous voyons que les croyants sont si loin de vouloir se débarrasser des corps que dans les confessions de foi au Christ, ils proclament aussi la résurrection de la chair. On a un ensemble de formulations très explicites qui mettent en valeur l'insistance de la foi chrétienne sur la corporéité. Sur ce fond, en tout cas, se détache une remarquable théologie de l'incarnation ou de l'inhumanation, puisque Cyrille déclare employer indifféremment les deux mots, ensarcosis et enanthropesis. Cette théologie de l'incarnation entend pleinement honorer l'affirmation inouïe de Jean 1,14, le Verbe devint chair. Dans son livre « Évangile selon Jean », Yves Simmons écrit à propos de cette affirmation « Le Verbe, la parole qui contient tout, se laisse contenir dans la chair vulnérable et mortelle, non pas la chair de péché, mais la chair dépositaire de la parole Verbe. » Eh bien, c'est justement cette union radicale du Verbe et de la chair que Cyril a lui-même en vue. Il use d'ailleurs à cette occasion, comme l'a bien souligné Michel Dujarrier, du langage très remarquable de la fraternité. L'évangéliste Jean a dit que le Verbe est devenu chair, c'est-à-dire homme, et il l'a fait descendre jusqu'à la fraternité avec ce qui est esclave et chose faite. C'est toute une théologie du Christ frère qui est ici sous-jacente. Le Christ s'est voulu frère de l'humanité. Cela même est le sens de l'incarnation. Je voudrais surtout souligner le point suivant, le développement de Cyrille sur ce verset, le Verbe devint chair. Le développement de Cyrille ne fait aucune allusion à Nestorius. Ce qui suffit à nous persuader que le commentaire sur Jean est antérieur à la fameuse controverse qui conduisit au concile d'Éphèse. Bien plus, on surprend Cyrille au passage, en train de dire que, je cite, « le Verbe conjoint à lui-même la condition humaine, synapto, synaptontos ». Cyrille utilise ici un mot cher à Nestorius, ce qu'il n'aurait évidemment jamais fait pendant ou surtout après la controverse. Et plus loin, lorsque Cyrille commente la formule « le Verbe habita en nous », il n'hésite pas à dire « on ne doit pas comprendre que le Verbe s'est changé en chair, mais plutôt qu'il a habité dans une chair usant du temple issu de la Sainte Vierge comme de son propre corps. » Formule qui, là encore, pourrait paraître plus nestorienne que syrienne. Pourtant, il ressort du commentaire que Cyrille, pour l'essentiel, et déjà, on est donc dans les années 426, 428, plus ou moins, en tout cas on est avant la controverse nestorienne et le concile d'Éphèse, il ressort du commentaire que Cyrille, pour l'essentiel, est déjà en possession de sa pensée christologique. C'est-à-dire d'une pensée qui, malgré les formulations que je viens de citer, insiste de manière privilégiée sur l'unité du Verbe devenu chair. On lit même dans le commentaire la formule qui lui sera par la suite reprochée « Le Christ est un à partir de deux ». Cette formule qui, comme le note Bernard Meunier dans son introduction, deviendra plus tard l'étendard du monophysisme, entre guillemets. Certes, le commentaire montre que la pensée de Cyrille évite en même temps l'écueil de la doctrine jadis professée par Apollinaire, pour qui le logos, le verbe, avait pris la place de l'esprit dans la nature humaine du Christ. Cyrille relève en effet, à propos de l'expression « le verbe devient chair », il relève que l'écriture divine appelle souvent du seul nom de chair l'être vivant en son entier. L'expression « le verbe devint chair » ne signifie donc pas que le verbe a seulement pris un corps, mais qu'il a pris la nature humaine en son intégrité. Il reste que l'insistance de Cyrille porte avant tout sur l'unité du Verbe incarné. Et Cyrille, comme il le fera par la suite, souligne fortement qu'il y va du salut de l'humanité. Comme le montrent ces formules qui rappellent le langage d'Irénée de Lyon, il fallait que ce qu'il y a en nous de plus exposé soit plus soigneusement préservé. Et par un entrelacement avec ce qui est vie par nature, soit rappelé à l'incorruptibilité. Il fallait désormais annuler l'effet de la parole « tu es terre et tu retourneras en terre » par l'union ineffable du corps déchu avec le Verbe qui vivifie tout, car il fallait que la chair devenue sienne participe à l'immortalité qui vient de lui. Le Verbe est donc devenu chair. Il est devenu chair afin, comme dit Cyrille, que l'on voit à la fois la blessure et le remède, la partie malade et le médecin, ce qui a incliné vers la mort et celui qui a éveillé pour la vie. Mais Siri insiste davantage encore sur cette unité du verbe fécher. Je cite, « L'évangéliste ne dit pas que le verbe est venu vers la chair, mais qu'il devint chair, afin qu'on n'imagine pas qu'il est venu visiter quelqu'un sous le mode de la relation, comme pour les prophètes ou quelque autre saint, mais que lui-même, en vérité, devint chair, c'est-à-dire homme. » C'est ce que nous disions à l'instant. C'est pour cela qu'il est bien Dieu par nature, dans la chair et avec la chair, en tant qu'il se l'est approprié et qu'il est conçu comme autre qu'elle, adoré en elle et avec elle. On reconnaît ici le thème fondamental que Cyrille ne cessera de développer bientôt contre Nestorius. Ce thème est donc bien, avant même cette controverse, la ligne de force de sa pensée christologique. Même si Cyrille use de certaines formules qu'il ne reprendra pas plus tard, il se montre dès à présent soucieux de prendre à la lettre le verset joannique, le verbe devint chair. Il n'y a pas simple relation entre le verbe et la chair, mais le verbe s'est lui-même approprié cette chair. Certes, quoi qu'il en soit de la position de Cyrille dans le contexte de la christologie ancienne, il est indéniable que, ici encore, son schème de pensée privilégié, le verbe s'est uni la chair, ne rencontre pas directement le courant dominant de la christologie contemporaine, qui a été souvent porté à mettre plutôt en valeur une démarche dite ascendante. Plutôt que de partir du verbe de Dieu et de réfléchir sur son incarnation, on plaide volontiers, depuis une cinquantaine d'années surtout, pour que la réflexion parte en quelque sorte d'en bas, c'est-à-dire de la considération de Jésus en son humanité, pour accéder à la révélation progressive de sa divinité. Mais ici de nouveau, pourtant, ce qui pourrait apparaître comme une limite de la christologie cyrillienne est en fait sa véritable force. Il est certes essentiel de réfléchir aujourd'hui à partir de l'humanité de Jésus, telle qu'elle se révèle à travers les récits évangéliques, et d'ailleurs Cyrille le fera lui-même à sa manière, lorsqu'il commentera certains épisodes du quatrième évangile. Mais, d'une part, la réflexion privilégiée par Cyrille est respectueuse du mouvement qui caractérise le début de l'évangile de Jean. L'évangile de Jean part bien, qu'on le veuille ou non, du Verbe de Dieu dans l'éternité, avant d'en venir à la considération de l'incarnation, puis à l'histoire même de Jésus. D'autre part et surtout, c'est justement parce qu'il suit le mouvement du prologue joannique que Cyrille, faisant référence à l'hymne de Philippiens 2 et à d'autres textes pauliniens, peut présenter l'incarnation comme l'autodonation de Dieu qui s'est dépouillé de lui-même par amour de l'humanité. Je lis « Ce qui est esclave est donc vraiment libéré dans le Christ en s'élevant jusqu'à l'unité mystérieuse avec celui qui a porté la forme d'esclave » et il est libéré en nous par imitation d'un seul, à cause de la parenté selon la chair. N'est-il pas évident pour tout le monde qu'il est descendu vers ce qui est esclave, sans se procurer par là quoi que ce soit à lui-même, mais en se donnant lui-même à nous, afin que nous soyons riches de son dénuement, nous qui nous élevons, grâce à notre ressemblance avec lui, jusqu'au bien privilégié qui lui est propre, et afin que nous apparaissions Dieu et enfants de Dieu par la foi. » Là me semble être l'enjeu ultime de la perspective développée par Cyrille. Certes, la christologie du commentaire ne connaît pas encore le problème que soulèvera bientôt Nestorius, et elle n'apporte pas toutes les précisions que la future controverse occasionnera, mais le volume édité par Bernard Meunier montre que Cyrille possède déjà les orientations essentielles de sa pensée, et cette pensée est sans doute de grande portée pour la christologie contemporaine, non seulement par ce qu'elle dit de la relation du Fils et du Père, et de la relation entre le Verbe fécher et l'humanité, mais aussi et plus encore, à travers ce qu'elle laisse entendre de l'incarnation comme expression de la kénose à laquelle le Verbe de Dieu a consenti en faveur de l'humanité. C'était déjà l'intuition d'Origène, qui écrivait dans son propre commentaire sur l'évangile de Jean, « Nous devons avoir le courage de dire que la bonté du Christ éclatée, plus grande, plus divine et véritablement conforme à l'image du Père, quand il s'est abaissé lui-même, se faisant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix, que s'il avait retenu avidement son égalité avec Dieu et n'avait point consenti à devenir un esclave pour le salut du monde. C'est cette même intuition que reprend Cyrille. Le fait même que son commentaire soit antérieur à la controverse nestorienne confirme, si besoin était, qu'il ne s'agit pas pour lui d'une pensée occasionnée par des débats circonstanciels, mais qu'elle s'enracine dans une méditation profonde sur le verset de Jean 1,14, lui-même interprété à la lumière de Philippiens 2. Dire cela ne met nullement en cause la préoccupation si importante aujourd'hui de développer une réflexion christologique à partir de l'histoire de Jésus, mais la pensée de Cyrille aide à comprendre qu'une telle réflexion doit précisément rejoindre le moment venu, la christologie haute qui ouvre le prologue joannique, seule condition pour que l'incarnation soit réellement perçue comme l'expression inouïe de l'humilité du Verbe de Dieu venu en ce monde pour que ceux qui croient en lui deviennent à leur tour enfants de Dieu. Il faut donc être très reconnaissant à Bernard Meunier de nous donner désormais accès à cette pensée de Cyrille dans le premier livre de son commentaire, et il faut aussi lui souhaiter bon courage pour la préparation des volumes qui suivront et qui certainement dévoileront d'autres richesses de la théologie cyrillienne.
Très grand merci Michel, je crois que tu nous as admirablement montré comment la lecture du commentaire de Cyrille peut en quelque sorte enrichir aussi nos réflexions contemporaines, même si précisément il ne dit pas exactement ce que les théologiens contemporains ont tendance à privilégier, mais justement à cause de cet écart, peut-être cela nourrit notre réflexion. Alors le temps est venu peut-être de quelques questions avant de terminer la soirée par la présentation des volumes par Guillaume Badi dans quelques minutes, mais nous pouvons présenter pour poser quelques questions à nos deux orateurs.
J'en ai quelques-unes, j'en aurai encore plus, mais bon. Bon, la première, c'est le manuscrit de Jean. Parce que à quel manuscrit se réfère-t-il ? C'est peut-être une question un peu naïve, mais c'est peut-être pas exactement le même qu'Origène. Parce que là, il discute vraiment, il commente les termes un à un. Donc ça peut venir aussi du manuscrit qu'il utilise. Est-ce que on a des références quand il commente sur les termes mêmes du manuscrit joannique ? Ça, c'est une question que je me posais avant même de venir. Sur le reste, c'est vraiment passionnant. Et moi, ce qui m'a aussi intéressé, c'est l'esprit. Bon, ma question, elle est sur l'Esprit Saint, parce que dans le début de l'Évangile, il n'y a jamais le mot pneuma. Ça apparaît beaucoup plus tard. Et on vous avait parlé de l'Esprit Saint, mais comment est-ce qu'il peut, il l'introduit ici, hein, puisque là on n'a que le Fils et le Père, en fait. Et la troisième chose, c'est la christologie d'en haut ou d'en bas. Donc Bernard Cesbou est bien placé pour en parler. Mais parce que Jean, c'est la christologie d'en haut. Enfin, moi, c'est ce que j'ai appris. Mais effectivement, là, vous avez très bien souligné que c'est beaucoup plus fin que ça. Il y a aussi une christologie d'en bas qui est bien contemporaine aussi, déjà dans Cyrille. Alors, peut-être. En tout cas, c'est la question. Et puis, il y en a peut-être une quatrième, c'est le rapport avec le monophysisme, parce que là, je le vois pas très bien. Il combat Arius. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une distinction avec ce monophysisme qui est déjà apparu ? Il n'y a pas que Nestorius, Eutyches. Enfin bon, est-ce qu'il n'y a pas aussi la volonté de se distinguer de cette approche-là ?
Sur le texte biblique de Jean, juste quelques mots. Oh, à 99%, c'est le même qu'Origène, hein. Mais effectivement, il y a quelques caractères d'un texte un peu plus tardif chez Cyril. En gros, c'est ce qu'on appelle le texte alexandrin dans l'histoire du texte biblique. C'est celui-là qu'utilise Cyril. Un texte. Enfin, il y a plusieurs âges du texte alexandrin. C'est le texte alexandrin tardif pré-byzantin pour le caractériser. Alors, on a en effet parfois des toutes petites variantes par rapport à Origène. C'est vrai que c'est pas exactement le même.
Oui, je pense que si on considérait l'ensemble du commentaire de Jean, là, le premier volume, encore une fois, ne porte que sur les premiers versets du chapitre 1, même pas sur la totalité du chapitre 1. Si on prenait en compte l'ensemble du commentaire, on trouverait beaucoup de réflexions très intéressantes à propos, justement, de Jésus, de l'humanité de Jésus. Mais là, bon, Cyril est tributaire du texte qu'il est en train de commenter. C'est un texte qui relève de ce que l'on appelle aujourd'hui la christologie haute, part de l'affirmation, le logos, au commencement était le verbe. Et il y a ce mouvement de descente, d'où l'expression christologie descendante, le verbe était au commencement et, verset 14, il est devenu chair. Mais de fait, ce que j'essaie de suggérer, c'est que l'un et l'autre doivent être articulés. Les premiers versets de l'évangile de Jean doivent être compris comme en quelque sorte, même si c'est ce qui arrive au début, c'est d'une certaine manière l'aboutissement, l'accomplissement de la méditation de l'évangéliste qui, à partir de la considération de l'humanité de l'histoire de Jésus est arrivée justement à reconnaître en Jésus celui-là même qui est le Verbe de Dieu, le Verbe qui s'est fait chair. Donc, en effet, il y a une articulation de l'un et l'autre mouvement. Un petit mot simplement sur votre dernière remarque à propos du monophysisme. En fait, c'est la catégorie monophysisme, elle est ultérieure, parce que c'est même après Nestorius, c'est à partir de Tychès, autour de 447-448. Donc, de cette manière, ce sera anachronique d'attendre de Cyril qui prenne position par rapport à ce qu'on appelle le monophysisme. Mais compte tenu de ce qui est arrivé par la suite, justement, à partir de la fin des années 440, il me semble extrêmement intéressant de remarquer que, d'une part, c'est vrai, Cyril a cette formule « le Christ est un à partir de deux ». Alors, c'est une formule qui, par la suite, évidemment, paraîtra hétérodoxe aux Chalcédoniens, voilà, parce qu'on tiendra les deux natures du Christ et non pas une seule nature, mais qu'en même temps, justement, en amont de ces controverses, Cyril a des formules qui laissent bien entendre qu'il reconnaît vraiment la distinction de Dieu et de l'homme en Jésus-Christ. Voilà. Et qu'il n'y a pas du tout d'absorption de l'humanité par la divinité qui sera ultérieurement reprochée à ce qu'on appelle, entre guillemets, le monophysisme.
Une autre question ?
Juste pour réagir sur l'esprit, comme le disait Bernard, le commentaire peut servir de traité de pneumatologie. Il y a des développements extrêmement importants, pas dans le livre 1, certes, mais à partir du livre 5, je crois. Et là-dessus, Cyril apporte vraiment des précisions et des développements assez inédits.
D'après ce que j'ai compris de ce que disait Michel à propos de 1.12, il me semble que la version qu'adopte Cyril d'Alexandrie pour les versets 12 et 13, c'est la version au pluriel, ceux qui ont été engendrés au pluriel de Dieu, et qui fait rebondir alors la question de ce que nous sommes par grâce, ce que le monogène est par nature. Alors ma question, c'est de savoir si, compte tenu, ma question s'adresse surtout à Monsieur Meunier, si on peut faire remonter à Cyril d'Alexandrie ce principe fondamental, finalement, de la théologie traditionnelle, nous sommes, comme croyants, par grâce, ce que le Fils est par nature.
Oui, ça c'est une phrase que Cyril aurait dit textuellement. Effectivement, il répète d'une manière ou d'une autre très souvent. Cela dit, je pense qu'il n'est même pas lui le premier à le dire. Chez Athanase, par exemple, on aurait déjà des choses qui ressemblent, et puis peut-être même encore avant, je suppose. Mais ça, chez lui, c'est en effet très structurant dans sa pensée. Et toute sa théologie de l'appropriation, qui est un des apports les plus fins et les plus intéressants de sa christologie. Il y a eu un livre en anglais là-dessus sur l'appropriation chez Cyril, qui est très très bien fait. Et bien, c'est justement de montrer comment ce qui n'est pas chez nous peut devenir nôtre à cause de celui qui l'est par nature. Mais le par grâce, quand il l'oppose au par nature, bien sûr, c'est pour bien mettre en place sa distinction entre Dieu et le créé. Mais après, toute sa sotériologie va consister à montrer que, par exemple, quand le Verbe s'approprie l'humanité, c'est vraiment quelque chose de très fort. Enfin, là, Michel les a exposé un peu la christologie de Cyril. Et vraiment, l'appropriation, c'est plus qu'une simple attribution en disant, ben voilà, on peut dire, par exemple, du Verbe qu'il a souffert et qu'il est mort parce que à cause du sujet commun qui est le Christ, hein, donc le Verbe dans le Christ, le Verbe a souffert. C'est vraiment une appropriation, c'est-à-dire que ça devient à lui Verbe. La distinction, enfin, sert à unir comme assez souvent.
Moi, j'avais juste une petite question sur ce prologue. Est-ce que Cyril nomme des adversaires de son interprétation? Vous avez évoqué les Juifs. Est-ce que les Manichéens sont visés dans ce volume? Vous avez rencontré la question de cette incarnation justement véritable ou...
Non, les manichéens, non. En fait, il nomme peu ses adversaires, à part les Ariens et Eunomes, c'est-à-dire la deuxième génération arienne, les Ariens radicaux, c'est les seuls qu'il nomme. Même quand il réfute longuement l'origénisme, il ne dit pas un mot ni d'Origène, ni des disciples d'Origène, rien du tout. Et c'est un procédé, bon, rhétorique fréquent, hein. C'est vrai que les pères nomment assez peu leurs adversaires, ils utilisent des périphrases, ceux qui pensent que... Donc là, sur le manichéisme, on trouve pas grand-chose à se mettre sous la dent dans ce livre 1.
S'il n'y a pas d'autres questions, je vais donner la parole à Guillaume Belli, donc directeur actuel de Sciences Chrétiennes, pour qu'il nous présente... les volumes parus cette année. D'avance, merci.
Merci beaucoup. Je suis impressionné par le public pour commencer. Je vous remercie beaucoup d'être là à cette heure qui commence à être tardive. Je salue Jean-Noël Guinaud, précédent directeur aussi des Sources Chrétiennes, et beaucoup d'entre vous. Merci beaucoup. Je remercie, je dois parler après 3 mètres, c'est pas très facile. Je salue Michel Fédou et je rappelle le plaisir qu'ont les Sources Chrétiennes à venir chaque année ici avec des partenariats divers qui nous unissent. Et puis je salue aussi Isabelle Bauchet qui représente d'une certaine façon l'Institut des études augustiniennes. C'est un institut qui connaît un destin parallèle associé au nôtre. Vous aurez constaté que Augustin n'est pas dans la collection, même s'il y est un tout petit peu. Et bien, c'est parce qu'il est bien sûr aux études augustiniennes. Voilà. Donc, il me paraît important que, au moment où les Sources Chrétiennes fêtent leur 600e volume, les études augustiniennes, qui on commence à connaître, si on accumule la collection des études augustiniennes, la bibliothèque augustinienne et la revue, je pense que vous devriez aussi ne pas être très loin des 600. Voilà, je salue bien sûr Bernard Meunier, non seulement en tant qu'auteur de ce livre, bien plus que Cyril, j'allais dire, mais aussi comme directeur des Sources chrétiennes pendant 10 ans, poste et fonction qu'il a occupé avec un dévouement, une compétence, une bienveillance tout à fait admirable. Alors, je dois maintenant vous passer. Je remercie les éditions du CERF qui ont mis des exemplaires à disposition. 5 autres volumes qui sont parus dans l'année. On va essayer de les faire passer à la fin. Donc 5 autres volumes parus cette année ou depuis la dernière soirée du Centre Sèvres. Je commencerai donc par Jérôme. Jérôme, vous le connaissez comme polémiste, vous le connaissez comme épistolier, vous le connaissez comme traducteur et exégète. Eh bien, vous n'avez peut-être pas beaucoup l'occasion de le connaître comme pasteur ou comme homéliste. C'est ce que vous pouvez découvrir, au moins en partie, dans ce volume 593 de la collection « 12 homélies sur des sujets variés ». Voilà un titre un peu curieux, mais qui repose sur une tradition éditoriale déjà ancienne. On a ajouté le chiffre 12. Vous avez en fait l'occasion de voir Bethléem parler au tout début du 5e siècle, aux moines de Bethléem, s'adressant à eux de manière assez fraternelle et pour le profit commun de tous. C'est une position de Jérôme qui est un peu inédite, qu'on voit aussi un peu dans les lettres évidemment, qui se porte également sur des sujets un peu moins habituels, notamment la liturgie, puisqu'on a une homélie sur l'épiphanie, on a deux homélies pascales en somme. Nous avons donc une attention particulière portée aux occasions liturgiques chez Jérôme. Et vous avez un commentaire du prologue de Jean, enfin alors ça n'est pas le prologue donc, mais vous avez aussi un commentaire du prologue de Jean qui s'intéresse non pas au Christ finalement, mais à Jean-Baptiste. Donc un autre écho et un autre Jérôme d'une certaine façon que vous pouvez découvrir dans ce petit et précieux volume. Je passe un peu rapidement, malheureusement, à Martin de Braga. Alors, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de choses de la Galice ou de l'Espagne visigothique au milieu du 6e siècle. Alors, les érudits parmi vous diront, mais oui, il y a Isidore de Séville qui a écrit là-dessus. Et après ça, il y a quoi? Eh bien, il y a Martin de Braga. Martin de Braga, Martin était évêque de Braga en Galice, après avoir fondé le monastère de Dûme. Donc on l'appelle l'apôtre des Suèves, il se réclamait lui-même de Martin de Tours, l'autre Martin, et il a connu une destinée littéraire assez curieuse, puisque l'une de ses œuvres, sur la colère, a été pendant longtemps transmis sous le nom de Sénèque. Donc d'une certaine façon, Sénèque est entré dans la collection Sources chrétiennes. Et c'est l'occasion pour moi de dire que dès les premières pages, on voit que nous avons affaire à un véritable écrivain, pas simplement un pasteur isolé, loin de la culture romaine, mais au contraire, quelqu'un qui porte haut le flambeau de la culture et de la spiritualité chrétienne. Vous trouverez un miroir du prince, puisqu'il était très proche du roi Mire. Vous trouverez un éloge de la chasteté, un traité pour repousser la jactance. Vous trouverez même des poèmes et un écrit sur la triple immersion baptismale et sur la date de Pâques. Donc, des écrits rare et d'un intérêt littéraire, doctrinal et pastoral certain. C'est bien sûr la première traduction française. J'ai oublié de dire que le premier volume de Jérôme a été fait par Jean-Louis Gourdin avec le texte de Don Germain Morin. Le volume de Martin de Braga a été fait par un trio composé de Guy Sabat, Jean-François Berthet et Laurent Angliviel de La Baumelle. J'en viens à un troisième volume déjà, qui est celui des panégyrique de martyrs de Jean Chrysostome, préparé par Nathalie Rambaud avec la collaboration de la grande patrologue Pauline Allen. C'est un premier volume puisqu'il doit y en avoir au moins deux tomes de panégyrique de martyrs, le deuxième tome consacré quant à lui aux femmes martyrs. Ici ce sont 5 hommes martyrs, antiochiens ou bien égyptiens. Les panégyriques eux-mêmes ont été prononcés sans doute à Antioche, donc la période entre 386 et 397. C'est une œuvre liturgique d'une certaine façon, mais qui dépasse très largement l'œuvre liturgique pour, à mon avis, aller jusqu'à une forme de théâtre spirituel et même de théâtre baroque. Vous voyez Jean Chrysostome représenter, frapper l'imagination de ses auditeurs en évoquant une tête qui continue à se faire entendre après avoir été décapitée. Vous y voyez, alors il dit le persécuteur a été plus malin, il n'a pas coupé la tête, il a coupé que la langue. Comme ça, ce serait peut-être plus habile. Et même sans langue, le martyr continue à se faire entendre. Et de même, le martyr qui voit son bras souffrir sous les braises tient bon et présente encore son autre bras. Vous avez une façon de présenter le martyr comme un modèle inédit pour le chrétien, mais un véritable modèle, quitte à frapper l'imagination, encore une fois, par exemple, l'Église présentée comme un champ irrigué par le sang, oui, bien sûr, des martyrs. Donc des images extrêmement fortes au service de ce qui est déjà le culte des saints et d'un encouragement à imiter un exemple qui pourrait sembler un peu lointain à des demi-chrétiens. Je passe, alors c'est une édition critique, je le souligne, ce qui est un exploit toujours quand on pense à Jean Chrysostome, quand on parle de Jean Chrysostome. Je passe au quatrième volume qui est aussi une édition critique très importante, les homélies sur le Notre Père de Grégoire de Nice, avec la traduction de Josette Séguin, regretté Josette Séguin, qui était faite et qui a retravaillée par Christian Boudignon et Mathieu Cassin, les deux auteurs de l'édition critique, de l'introduction et de l'ensemble de l'appareil éditorial. Important pour cette œuvre majeure, centrale par son objet, centrale aussi par les positions qu'elle prend. Alors, je ne peux pas tout développer, mais encore récemment, la prière du Notre Père a été traduite différemment pour ce passage. Ici, vous avez comme traduction « Et ne nous livre pas à la tentation ». Tentation avec un T majuscule. La tentation, c'est le démon lui-même. Et donc la dimension immatérielle du combat spirituel est soulignée dans ce commentaire. Et inversement, la dimension matérielle des besoins humains, quand on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », nous dépendons d'une certaine façon de Grégoire de Nice lorsqu'il dit « Mais attention, ce pain épiousios, ce pain super substantiel, ça n'est pas quelque chose qui doit nourrir notre substance immatérielle et ça n'est pas forcément non plus l'Eucharistie, c'est tout simplement le fait qu'on a besoin de pain pour vivre. » Donc le pain quotidien. Voilà deux exemples parmi beaucoup d'autres de ce texte majeur pour l'exégèse ultérieure et la spiritualité patristique. J'en viens au cinquième qui m'est particulièrement cher aussi puisque c'est le premier tome des lettres d'Alcuin. Alors Alcuin, c'est le grand maître carolingien, le maître de la Renaissance carolingienne, proche de Charlemagne. D'ailleurs, le volume contient une lettre à Charlemagne. Vous avez ici le premier de nombreux volumes, sans doute, préparés par Christiane Combe, édition critique, traduction pour la première fois en français. Vous avez 20 lettres qui sont tirées d'une première collection rassemblée par un ami d'Alcuin, Arne de Salzbourg, et qui sont toutes datables de 799. Vous avez ici, là encore, avec Alcuin, on pourrait se dire, ça y est, on passe à un autre type de culture. Eh bien, je crois que c'est tout à fait faux. Hein. Vous voyez que le volume a bien une couverture coquille d'œuf. jaune comme les latins, comme les premiers latins de notre époque patristique. Il ne départ pas du tout dans le paysage patristique, à la fois par son langage et par sa profondeur spirituelle. Il répond ici, vous avez des genres littéraires différents, une lettre de consolation à la reine Edhildrude, reine de Northumbrie. Vous avez une lettre à Charlemagne qui commente le glaive. Qu'est-ce que c'est que le glaive? Quel est le rôle finalement de Charlemagne dans la société en général et dans l'Église en particulier? Il répond à Félix d'Urgel, au mouvement hérétique. Il répond à ses anciens élèves qui se posent des questions sur le sens des chiffres dans les Écritures. Vous avez à plusieurs reprises des développements numériques. Vous avez également une attention pastorale portée au rôle des laïcs ou encore à la nécessité d'une évangélisation non violente. Donc un discours d'un homme qui n'est pas du tout retranché dans son cabinet, mais qui au contraire me paraît tout à fait ancré dans la société de son temps et qui, à mon avis, pourrait avoir des échos certains dans la nôtre. Voilà, donc il me paraît important que ce volume d'Alcuin permettent vraiment de mieux découvrir cet auteur majeur qui est tout à fait légitime, à mon avis, dans la collection. Alors, vous aurez peut-être remarqué que Alcuin, c'est le numéro 597, donc Chrysostome 594, Chrysostome 595, Grégoire Denis 596, Alcuin 597, et voilà le numéro 600. Vous allez me dire, mais vous avez triché? Eh bien, j'aurais voulu vous dire qu'on n'a pas triché, mais ce qui s'est passé à la fin de l'année, c'est, même si en fait Charles Canengisser est décédé au début de l'année, on n'avait pas prévu le problème, il est l'auteur de la traduction des trois discours contre les Ariens d'Athanase. Et ça devait faire deux volumes, donc les volumes 598 et 599. Il faut attendre la succession. L'acte de succession, et donc ça paraîtra l'an prochain. Et je remercie beaucoup Bernard qui, en plus de Cyril, a dû travailler beaucoup sur ces deux volumes d'Athanase. Alors dans la suite également, je peux annoncer le commentaire sur Daniel de Jérôme, le traité sur l'âme de Tertullien, un inédit, une lettre sur la Pâque d'un certain Timothée, un Cappadocien au IVe siècle. Les tomes 3 et 4 des commentaires sur les psaumes d'Hilaire, certaines oraisons funèbres de Grégoire de Nice accompagnées de l'écrit sur les enfants morts prématurément, le martyr des soldats africains, l'énigme de la foi de Guillaume de Saint-Thierry et d'autres. Je sais que Bernard, et j'ose le déranger quand même de temps en temps, même si je sais que c'est important, quand il y travaille, s'est déjà mis au tome 2. Du commentaire sur Jean de Cyril. Alors, la présentation des livres, je pense que vous avez l'habitude, hein, il n'y a pas Alcuin encore, ni encore moins Cyril. La présentation des livres qui paraissent est faite, là en l'occurrence par Laurence Mellerin et moi, dans le bulletin de l'association des amis des sources chrétiennes. Dominique Gonnet, ici présent, en a quelques exemplaires aussi, avec d'autres documents. Vous trouverez ça aussi sur le site des sources chrétiennes, qui comporte aussi des liens vers notre chaîne YouTube. C'est pas spécialement en effet du numéro 600, mais ça va un petit peu avec. Vous trouverez notamment un film qui s'appelle « De commencement en commencement », qui présente les sources chrétiennes sous ses divers visages. Et d'autres films encore, voilà, on essaye de développer aussi cet aspect-là. Voilà, avec ces volumes et en particulier avec ce commentaire sur Jean, je redis l'attachement des sources chrétiennes à produire des traductions françaises, souvent ce sont les premières qui existent, mais aussi des éditions critiques originales. Et puis, la volonté de continuer à rendre disponibles des grands classiques, comme l'est en réalité ce commentaire sur Jean, trop peu lu, et puis des auteurs ou des œuvres plus méconnues ou trop méconnues, comme Martin de Braga ou encore Alcuin. Voilà, je pense que c'est extrêmement important que nous arrivions à tenir ces deux exigences, donc à la fois les classiques et les œuvres moins connues, pour rendre vraiment accessibles les pères de l'Église, leurs œuvres, et permettre le ressourcement nécessaire. Merci beaucoup.
Pour terminer cette soirée, je crois que Dominique Gonnet souhaite dire quelques mots. Donc il s'occupe notamment de l'association des Amis de Sources Chrétiennes. Sinon tu peux prendre ça.
Oui, justement, ce qu'on voit ici montre aussi l'aspect rédactionnel de Sources Chrétiennes, parce que ça, c'est une partie de l'ancien site. Il y a un nouveau site dont la grande subtilité, c'est qu'au lieu de Sources Chrétiennes avec un trait d'union, on supprime le trait d'union et on peut trouver le nouveau site. Et il y a un troisième site qui est celui de l'association, sur lequel vous pouvez en particulier trouver les archives du bulletin. Donc, de toutes les années précédentes, si vous voulez une présentation, un résumé du livre, des livres, vous les retrouverez. Et puis, outre le bulletin, il y a des documents que vous trouverez au fond de la salle, qui sont une petite présentation de l'association qui permet de s'inscrire, et puis un document qui a été mis au point par Guillaume Badi, beaucoup plus complet, qui a été fait cette année, donc un document tout récent, qui donne l'ensemble, un peu le contexte, et en particulier notre collaboration, que ce soit avec les jésuites, que ce soit avec le CNRS, avec l'université, etc. Et on peut souligner ici la joie que nous avons de retrouver chaque année avec le Centre Sèvres pour cette rencontre, et qui est l'occasion pour nous aussi de recueillir le fruit de l'année, car nous ne faisons pas la même rencontre à Lyon. Donc c'est l'occasion de tous vous retrouver, de retrouver beaucoup de visages connus, de collaborateurs, et de les remercier encore pour cette réalisation commune, cette synergie que représente Sources Chrétiennes. Merci. Voilà, juste un petit point, j'ai fait circuler un autre livre qui vous a semblé peut-être très différent, qui est « Lecture de la Bible », qui est passé de ce côté, qui est aussi un travail de l'équipe et le résultat d'un enseignement que nous avons donné à l'université sur la Bible dans la tradition, la Bible à travers les âges, et en particulier, bien sûr, avec les pères, mais pas seulement les pères, aussi dans l'islam, dans le judaïsme, un livre de synthèse, et grâce au CERF, nous avons eu la chance de pouvoir le publier. Voilà, merci.
Eh bien, il me reste à remercier tous les orateurs de cette soirée, donc bien sûr Bernard Meunier, que je vous invite à lire dans sa présentation et sa traduction de Cyril d'Alexandrie, Michel Fédoux, Guillaume Badi et Dominique Gonnet, et à vous remercier tous d'être venus et de nous avoir fait l'amitié d'assister à cette soirée. Bonne soirée.